rencontre spirituelle aujourd'hui sera question de Sainte Thérèse d'Avila. Je vous en ai parlé l'an dernier et l'autre année avant. Mais cette année, je voudrais surtout vous parler de sa pensée, de sa doctrine, de ce qu'elle nous a enseigné. C'est assez difficile à résumer. Mais avant de commencer, je tiens à m'excuser auprès des frères de l'instruction chrétienne hier. J'avais devant moi les mots « frères des écoles chrétiennes » en parlant de Jean-Marie Lamennais au début de l'émission. Et c'était bien pour leur rendre hommage, et j'ai dit « frères des écoles chrétiennes ». Je ne comprends pas, j'ai reçu un téléphone à ce sujet, j'ai écouté hier soir, et en effet, j'ai commis cette erreur, cette bévue. C'est un mal fonctionnement de mon cerveau, ça commence à vieillir. Je vous parle donc de Thérèse d'Avila aujourd'hui. Je vais consacrer les premières minutes à sa vie pour en faire un petit résumé pour ceux qui n'ont pas écouté l'an dernier, les autres années, ce sera bref. Et ensuite, nous parlerons directement de sa pensée, de sa doctrine. Alors, c'est à Avila, en Castille, en Espagne, en 1515, qu'elle est née. C'est une terre de rêves et de saints, dit-on. Et cette petite Thérèse est l'une de 12 enfants d'Alphonse de Cepeda. Elle lit déjà, très jeune, des livres ascétiques, comme on dit. Elle médite la vie des saints. Elle s'enthousiasme pour les martyrs, et un jour, en cachette, on connaît ça, cette histoire, elle entraîne son petit frère Rodrigue vers le pays des morts, des musulmans, quoi, qui avaient envahi une partie de l'Espagne. Elle va aller se faire décapiter, croit-elle, par ces gens qu'on considère à l'époque comme des païens cruels qui torturaient les chrétiens. Ben, ça arrive encore aujourd'hui au Soudan, dommage de le signaler, et ailleurs. Mais ces deux enfants n'avaient pas fait quelques milles que leur oncle les rencontre puis les ramène au logis. À 13 ans, Thérèse perd sa mère. Alors, elle demande à la Sainte Vierge de lui servir de mère. Et Thérèse, vers ses 15 ans, lit en se cachant, en cachette, comme on dit, elle lit des romans de chevalerie qui la laissent rêveuse. Et maintenant, elle veut avoir des robes élégantes, elle se parfume, elle prend soin de ses bijoux, de ses parures, elle prend soin de ses mains aussi, puis elle trouve bien agréable de plaire à ses cousins et à leurs amis. Ce qui me sauva, dira Thérèse dans son autobiographie, car vous pouvez lire sa vie écrite par elle-même, qui est parue chez Stock, chez Résiac et ailleurs. Ce qui me sauva, ce fut la crainte de Dieu que je ne perdis jamais, et celle de manquer aux lois de l'honneur, celle de manquer aux lois de l'honneur. C'est très important chez les jeunes Espagnols, jusqu'à tout récemment en tous les cas. J'en ai été témoin en Espagne il y a déjà près de 50 ans, ça m'avait ébloui. Elle disait aussi, j'avais une invincible horreur des choses déshonnêtes. Alors, il y a une maladie qui atteint Thérèse d'Avila, elle entend un oncle qui lui répète que tout ici-bas n'est que vanité, que tout passe comme l'éclair. Alors, elle comprend enfin que sa vocation, c'est la vie religieuse, mais il y a de grandes révoltes en elle. Ça ne l'attend pas tellement. Il lui faut, en plus de ça, il faut braver le refus de son père qui s'y oppose. De toute façon, elle arrive à entrer au monastère, au couvent de l'Incarnation, à Avila, où elle va passer 27 années. La règle dans ce grand Carmel est plutôt mitigée, c'est-à-dire qu'elle est très assouplie. On y admet des distractions, des visites, on dit que les sœurs portaient des dentelles aux manches, etc. Elles vont au parloir presque autant qu'elles le veulent, mais il y a une grande ascension qui lui reste à parcourir avant de se lancer sur le chemin difficile de la réforme du Carmel et puis de la fondation des monastères. Vous savez qu'elle en a fondé beaucoup. Hein? Un jour, au cours d'un entretien mondain qu'elle a, justement dans ce monastère, Elle a la vision de Jésus couvert de plaies, un peu comme on le voit sur le Saint-Suaire de Turin. Et son cœur en est tout meurtri, raconte-t-elle. Mais il lui faut beaucoup lutter pour arriver à n'aimer les créatures qu'en Dieu, et pour Dieu, c'est pas facile. Et elle passe de longues années, comme Carmélite, là, dans l'aridité. Elle ne ressent plus rien. Elle ressent surtout la crainte de l'enfer. Elle accepte les sécheresses de l'âme, comme ça, puis les souffrances physiques même et les peines morales. Et pendant 20 ans, elle ne réussit pas à se trouver un confesseur qui la comprenne. Et puis, elle s'entend plutôt traiter de visionnaire. Heureusement, il y a Saint François de Borgia qui la rassure. C'est pas n'importe qui, il sera général des Jésuites, comme vous savez. Je vous en ai parlé le 10 octobre, c'est sa fête le 10 octobre, c'était sa fête encore. Il est, je vous en ai parlé il y a déjà 3 ans, en 1995. Et sa mère, c'était pas n'importe qui, c'était Jeanne d'Aragon, qui était une poétesse et une musicienne. Il était très riche. Il a tout sacrifié. Il la comprend. Et puis, ses confesseurs l'obligent à décrire ce qui se passe dans son âme. Heureusement, on a ses textes dont je vous ai parlé, son autobiographie. Et Sainte Thérèse d'Avila, qui a peu d'instruction, au fond, écrit des ouvrages d'une telle valeur qui lui ont mérité le titre de docteur de l'Église, qui n'avait jamais été accordé à aucune femme avant elle. Elle s'est liée par le vœu héroïque de faire toujours ce qu'il y a de plus parfait. J'ai toujours trouvé extraordinaire dans les vies de saints, ces saints qui font ce vœu, de faire toujours ce qu'il y a de plus parfait. Et elle n'a pas eu l'air plus austère à cause de ça, bien au contraire. Elle est alerte, elle est enjouée. Elle a, comme on dit, beaucoup de charme, même sous son costume de carmélite. Elle va jusqu'à jouer des castagnettes, c'est sûr ça, pour divertir ses carmélites quand elles sont un peu tristes. Et cette grande contemplative va manifester une intelligence positive, femme solide. Elle a un bon sens réaliste qui va l'amener à une solide réforme du Carmel. Elle va, par tous les chemins de l'Espagne, entreprendre des fondations de monastères. C'est pas quelque chose, fonder un monastère. C'est pas une petite affaire, fonder un monastère. C'est énorme. Or, elle en fonde plusieurs. Hein. Donc, d'abord enfermée à Avila, en une maison qui prend le nom de couvent de Saint-Joseph, c'est le premier monastère, où les sœurs vivent de silence, de pauvreté, de prière, de jeûne, et qui vont pieds nus en toute saison. Eh bien, Thérèse va en sortir, pour ne plus cesser de bâtir ou d'organiser des monastères. Elle est aidée là-dedans, vous le savez, par Saint Jean de la Croix. Et Sainte Thérèse d'Avila étant donc la réforme au Père Carme. Vous savez que nous en avons à Montréal, près du métro Henri Bourassa, rue Hamel. Il y a un Carmel de femmes aussi, près du métro Laurier, près de la rue Saint-Denis, un peu vers le nord, la rue du Carmel. Alors, elle cherche à faire aussi la réforme des Pères Carmes, grâce à Saint Jean de la Croix, qu'elle veut rétablir dans la sévérité première ces deux grands ordres d'hommes et de femmes. Ce qui est cause, évidemment, de tumulte. Elle risque d'être emprisonnée, mais heureusement, le roi et le pape prennent sa défense. Elle fonde plus de 30 couvents, je répète, 30 couvents, ça semble absolument invraisemblable. Surtout quand on pense qu'il fallait se déplacer dans des routes souvent boueuses, dans des chariots ou roues presque carrées. Ça devait être effrayant, et son activité inouïe, ses fondations, ses voyages, les difficultés multipliées, puis toutes les affaires qu'il fallait entreprendre, trouver les moyens, l'aide, ça l'empêche pas de se jouir presque toujours de la présence de Dieu et de se tenir, pour ainsi dire, en oraison constante. On va y revenir tout à l'heure, parce qu'elle va en parler de ça. Vous allez voir. Alors, elle est souvent en extase. Elle dit, je ne sais pourquoi on m'appelle fondatrice, dit-elle. C'est Dieu lui-même qui a fondé, ce n'est pas moi. Au milieu de son activité absolument extraordinaire, Thérèse d'Avila écrit donc sa vie, qu'elle appellera le livre des miséricordes de Dieu. Elle écrit le château intérieur où son âme va de salle en salle dans le château, va jusqu'à la majesté de Dieu qui trône dans ce château. Avec vivacité, elle sait en quelques mots cerner la sainteté. Je vous cite quelques passages. Il faut du courage pour être femme du roi du ciel. Ne cherchons pas à penser beaucoup, mais à aimer beaucoup. Nous ferons de meilleures vertus en nous attachant à la vertu de Dieu qu'en nous collant à notre bout. Notre tâche est d'imiter le ver à soie, de tisser notre petite coque en renonçant à tout amour propre, en produisant des œuvres de pénitence, d'oraison, de mortification, d'obéissance. Dieu, quand il voudra, nous transformera en papillons blancs. Elle ajoute aussi, l'important est d'avoir amour et crainte, ces deux vertus si grandes. Et elle dit aussi, désir d'être tenu pour la dernière de toutes. Elle met de l'humour dans la sainteté. Par exemple, sa boutade bien connue, je vous l'avais déjà dit, je vous la rappelle, alors qu'elle s'est blessée à la jambe, si je me suis aimé, c'est en descendant d'un carrosse, là. Seigneur, après tant d'ennuis, il arrive bien celui-là. Et elle entend Thérèse, c'est ainsi que je traite mes amis. Et elle lui répond, ah mon Dieu, c'est pas étonnant que vous en ayez si peu. Son grand cœur fait le tour du monde. Elle pense à ces pauvres Indiens. Et elle s'offre pour eux, hein, ils me coûtent bien des larmes. Thérèse va mourir en campagne comme un soldat à Albe de Tormes. Il y en a eu pour penser que c'était l'excès de son amour plutôt que la maladie qui la faisait mourir. Lorsque le Saint-Sacrement pénètre dans sa cellule, il faut l'empêcher de s'élancer de son lit. Elle a ce grand cri, « Seigneur, il est temps de nous voir. » Et pour l'éternité, bien, Thérèse est unie à l'amour. Et maintenant, nous allons aborder la mystique apostolique de Thérèse d'Avila. Vous allez dire, une mystique apostolique, elle était contemplative. Les carmélites ne sont pas n'ont pas de spiritualité apostolique. Et pourtant, Sainte Thérèse l'Enfant Jésus, dont on a fêté le 100e anniversaire du décès, il n'y a pas longtemps, eh bien, elle est patronne universelle des missions. Lorsque je suis allé dans un centre très carmélitain qu'on appelle l'Institut Notre-Dame de Vie dans le sud de la France au mois de juin dernier, j'ai rencontré là le père Villelem, qui m'a remis un dossier. Il me dit, bien cher monsieur, voilà un petit dossier sur la mystique apostolique. Pour une de vos émissions spéciales, peut-être. Vous en ferez ce que vous voulez, amicalement. Et il parle du renouveau mystique qu'il faut préparer. Il me conseille de faire l'émission à partir d'un texte qu'il m'a remis. C'est que il a publié un ouvrage, « Dieu dans l'action ». Il a parlé, enfin, de différentes questions comme celle-là. Et il a publié un autre livre très important sur ces questions extrêmement intéressantes que sont la pratique de Thérèse d'Avila dans l'action. Son livre s'intitule « Agir dans l'esprit » à la suite de Thérèse d'Avila. C'est paru l'an dernier au Sarment Fayard. Et le nom de ce prêtre, c'est Willelem, W-I-L, H-E accent aigu, L-E-M. François-Régis Willelem. Dimanche prochain, n'est-ce pas, c'est le dimanche des missions, c'est le temps de parler de cet aspect apostolique de la mystique de Thérèse d'Avila. Donc, dans un ouvrage paru en 1995, intitulé « Carmel, horizon 2000 », on voit bien à quel point, à l'intérieur même de sa vocation de contemplative, les carmélites, ou le Carmel tout entier, se sent interpellé par la mission, hein, en présentant un certain nombre de mouvements ou communautés raccordées plus directement au grand tronc du Carmel, ou en affinité spirituelle avec lui. On voit comment beaucoup viennent y chercher non seulement la... cette sève-là de la contemplation, mais aussi une manière de vivre la mission d'aujourd'hui dans ce monde où on a vraiment besoin de missionnaires, même ici à Montréal. Comme le résume un des auteurs de ce livre, Carmel Horizon 2000, le Carmel est un trésor dont le père de famille tire, comme dans l'Évangile, l'Ancien et le Nouveau. Et pour répondre à cette attente missionnaire, puis relever ainsi le défi de la nouvelle évangélisation que l'on souhaite tous, il semble donc utile d'entreprendre, de façon nouvelle, quoi, une réflexion sur la doctrine des grands maîtres spirituels du Carmel, dont surtout Thérèse d'Avila. Leur science contemplative ne déboucherait-elle pas sur une authentique mystique apostolique? Est-elle, eh bien, l'intuition de ce fameux père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, dont je vous ai déjà parlé il n'y a pas si longtemps, il y a un an et demi, je pense. Ce grand mystique a écrit « Je veux voir Dieu » et quantité d'autres livres, grand carme. Alors, c'est son intuition au père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus à propos de sainte Thérèse d'Avila. En effet, dans son grand ouvrage, célèbre ouvrage « Je veux voir Dieu », structuré selon le schéma du livre des demeures, qui est un des ouvrages les plus importants de Thérèse d'Avila, les demeures, mais il remarque que si, je cite, « la prière hautement contemplative et imminemment efficace est la première forme de l'apostolat thérésien, le premier but de la spiritualité thérésienne, il n'en est pas le seul. » Pour lui, l'enseignement de la réformatrice Thérèse d'Avila contient également, je cite, « une doctrine d'apostolat des plus simples et des plus hautes. » Alors, ce ne sera pas trop compliqué, cette émission, vous allez voir. Une doctrine d'apostolat des plus simples et des plus hautes, particulièrement apte à former des apôtres parfaits. Voulez-vous devenir des apôtres parfaits? Veut-on devenir, voulons-nous devenir des apôtres parfaits? Mais je pense qu'il faut réfléchir à tout ça, ce que nous dit le père Marie-Eugène, l'enfant Jésus, et le père Willelem. Le père Marie-Eugène ajoute, en réalité, on ne saurait dans l'enseignement thérésien séparer ni distinguer la doctrine spirituelle d'apostolat de la doctrine contemplative. C'est surprenant. Hein? En cette spiritualité, c'est ce qu'il ajoute, contemplation et apostolat sont solidaires l'un de l'autre. Ils se fondent et s'y complètent heureusement. Ce sont deux aspects d'un tout harmonieux, deux manifestations d'une même vie profonde. Puis de fait, quand on parcourt les écrits de sainte Thérèse, on trouve, oh, ici et là, des grandes lignes d'une mystique apostolique qui se dégage au fur et à mesure de la progression de la vie de raison. Les conseils apostoliques concrets de travail et d'engagement qui sont donnés à chacune des étapes de cette vie de raison là sont si précis, si lumineux, qu'on pourrait, écrit encore le père Marie-Eugène, rédiger un véritable traité pour la formation d'apôtres, bon, des jésuites, des dominicains, des frères de l'instruction chrétienne, etc., des apôtres et des laïcs qui, restant des contemplatifs sous l'action de l'Esprit-Saint, n'en seraient que des apôtres de plus haute qualité. Alors même les carmes, même les carmélites, même les clarisses peuvent être des apôtres de la plus haute qualité. Et nous aussi. Comment ça? Essayons de présenter les grandes lignes de cette mystique apostolique thérésienne. Mais il faut préciser auparavant le sens de cette expression un peu neuve, hein, dans le vocabulaire de la spiritualité mystique, contemplative et mystique active. Le mot mystique, lui-même, risque peut-être d'effrayer encore bon nombre de chrétiens. Pourtant, quand on y pense, il y a quelques années à peine, le catéchisme de l'Église catholique l'a réhabilité. En effet, à la suite du Concile Vatican II, le catéchisme de l'Église catholique, le gros bouquin, là, rappelle aux baptisés que tous, ils sont appelés à la perfection de la charité, c'est-à-dire à la sainteté. On nous disait pas tellement ça quand on était jeune. Or, la sainteté, c'est l'aboutissement d'un cheminement spirituel qui tend à une union toujours plus intime avec le Christ. Cette union s'appelle mystique parce qu'elle participe au mystère du Christ par les sacrements et en lui au mystère de la Sainte Trinité. C'est ce qu'on trouve dans le catéchisme de l'Église catholique au numéro 2014. Contrairement donc à ce qu'une certaine littérature a pu laisser entendre par le passé, là, la vie mystique, ça s'identifie pas aux grâces spéciales, les affaires étranges, aux autres signes extraordinaires de cette vie mystique qui sont seulement accordés à quelques personnes en vue de manifester le don gratuit qui, en fait, est donné à tous. Elle n'est rien d'autre, la vie mystique, que la vie chrétienne, menée sous l'action habituelle et prépondérante, évidemment, des dons du Saint-Esprit, reçus au baptême et à la confirmation, pour que nous nous identifions au Christ. Et en arriver à dire, comme Saint Paul, si possible, ce n'est plus moi qui vis, c'est moi, c'est le Christ qui vit en moi. D'ailleurs, Saint Paul l'enseigne aussi dans l'Épître aux Romains, il dit, ceux-là sont fils de Dieu qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Alors, la vie mystique, elle se limite pas à la vie contemplative, mais elle englobe également la vie active. En définitive, c'est toute l'activité humaine accomplie sous l'influence du Saint-Esprit. C'est pourquoi on peut parler d'une mystique apostolique ou mystique de l'action. Et le Père Marie-Eugène, il dit bien qu'il faut savoir distinguer vie mystique et expérience mystique. C'est pas pareil, hein? Il écrit à ce sujet, « On a tendance à identifier vie mystique et expérience mystique. » Action de Dieu par les dons et expérience de cette action, comme si elles étaient inséparables. C'est une confusion. C'est la source d'erreurs pratiques importantes. Il est évident, en effet, que l'action de Dieu par les dons est nettement distincte de l'expérience que nous pouvons en avoir. Si bien que la première peut exister sans la seconde, les communications directes de Dieu, ajoute-t-il, ne sont pas toujours accompagnées d'expériences. On ne saurait, par suite, affirmer qu'il n'y a pas de vie mystique sans expérience mystique. Alors, de telles affirmations sont très éclairantes, hein? Elles permettent, me semble, de discerner une authentique vie mystique chez des personnes qui ont une vie spirituelle extrêmement dépouillée et même très pauvre apparemment. Sainte Thérèse d'Enfant Jésus en est un merveilleux exemple. On l'a pu le voir au cours de l'année. Je vous ai fait 5-6 émissions. Mais revenons à sa mère dans le Carmel réformé, Sainte Thérèse de Jésus, Sainte Thérèse d'Avila. Quelle lumière nous apporte-t-elle sur cette question de la mystique apostolique? Mais sans qu'elle-même ait fait des théories sur le problème, là, ses écrits fournissent, ainsi que je vous l'ai dit, des enseignements extrêmement précieux à ce sujet. Je vais en relever trois principaux. Il y a la marche vers la sainteté, qui est le fondement de la mission, la croissance dans la vie de raison qui entraîne nécessairement un développement du zèle apostolique, puis en raison de l'union au Christ, bien, il y a l'action qui devient nourriture pour la vie mystique. On va les examiner tour à tour. Il y a la marche donc vers la sainteté qui est fondement de la mission, et puis la croissance dans la prière, la croissance dans l'esprit apostolique et l'action qui est nourriture de la vie mystique. Je vous en dis quelques mots avant la pause. Pour Sainte Thérèse d'Avila, suivre la voie de l'oraison, c'est prendre en même temps une ferme détermination, très déterminée. J'aime bien ça dans le texte espagnol, c'est una grande y muy determinada determinación. Une détermination très déterminée, d'y rester fidèle quoi qu'il en coûte, et c'est la condition pour parvenir à boire gratuitement, dit-elle, l'eau vive de la contemplation, et atteindre ainsi, dit-elle, le sommet de la perfection. Et elle constate à ce sujet, « Je m'émerveille de voir combien il importe dans cette voie d'entreprendre vaillamment de grandes choses. Quand elle manquerait de force dans l'immédiat, l'âme prend son envol et monte très haut, même si, comme l'oiselet au maigre plumage, elle fatigue et ralentit. Les grandes choses, c'est finalement quoi? L'union parfaite avec le Seigneur, selon la mesure du don fait à chacun. Et pour notre sainte Thérèse d'Avila, il est donc très important de ne pas minimiser les grands désirs de sainteté que le Seigneur lui-même inscrit dans le cœur. En effet, si les saints s'étaient jamais déterminés à aspirer à un tel idéal, et peu à peu à se mettre à l'œuvre, ils n'auraient pas atteint un état si élevé. L'essentiel de ce qu'elle dit sur la recherche de Dieu et la recherche de la sainteté. Elle vient de dire que si les saints ne s'étaient jamais déterminés à aspirer à l'idéal de la sainteté, et peu à peu à se mettre à l'épreuve, comme elle dit, il n'aurait pas atteint un état si élevé. Elle dit ça dans sa vie. Ces grandes aspirations vont nourrir leur raison et ça pousse aux œuvres. Elle l'écrit dans les Pensées sur l'amour de Dieu, « Je vous supplie encore de maintenir des pensées courageuses. Vous obtiendrez ainsi du Seigneur la faveur de vos actes la faveur que vos actes le soient aussi. » Elle utilise le mot « obras » pour « acte ». À partir de ces aspirations courageuses et des actes qui en découleront, là, mais Dieu lui-même va susciter une réelle fécondité apostolique. Et une attitude constante d'humilité va vérifier l'authenticité de ses désirs ardents, car le Seigneur, dit-elle, veut des âmes courageuses, à condition qu'elle vive dans l'humilité sans nulle confiance en elle-même. Il s'agit donc pas de cacher sa lâcheté sous de l'humilité, mais de s'appuyer totalement sur Dieu, en comprenant que nous ne trouverons pas la force en nous. En effet, la marche vers la sainteté n'est pas une conquête à la force du poignet, mais une collaboration à l'œuvre de la grâce. Et cette collaboration intègre l'expérience de la faiblesse personnelle. D'ailleurs, plus la vie spirituelle va s'approfondir, plus la connaissance de cette faiblesse va grandir. Et cette loi paradoxale de la croissance spirituelle est clairement énoncée par Thérèse. Voici ce qu'elle dit à ce sujet. C'est très simple. La notion que Dieu nous donne de notre impuissance à rien faire de bien par nous-mêmes, d'autant plus que ses faveurs sont plus grandes, est bien connue. Et la madre, comme on l'appelle souvent, hein, la mère, la madre, exprime habituellement cette contradiction, cette antinomie apparente, sur les mots suivants, misère humaine, miséricorde divine. Quand on est dans la misère humaine, on a de la misère, c'est le cas de le dire. On pense à la miséricorde de Dieu. Une telle expérience permet en fait d'éviter le piège mortel de l'orgueil spirituel. Dans sa relation, d'un autre de ses ouvrages, Sainte Thérèse raconte que le Seigneur le lui a fait comprendre un jour en lui disant « Tel est la véritable humilité, connaître ce dont on est capable et ce que je puis. Dieu peut, lui. Jésus peut. Mais nous, vous connaissez ce dont on est capable et ce que Jésus peut. » Et ce réalisme spirituel n'empêche pas Sainte Thérèse d'encourager à prendre le chemin de la sainteté. Car celui qui s'y engage avec la ferme intention de parvenir au but n'arrive jamais seul au ciel, dit-elle, mais y amène beaucoup de gens, mucha gente, derrière lui. Cette conviction est réaffirmée plusieurs fois dans ses œuvres. C'est ainsi que dans le livre de sa vie, elle écrit à propos de ceux qui sont entrés dans la vie mystique, « Il semble que Dieu veuille les choisir pour en faire progresser beaucoup d'autres. » Et lorsqu'elle évoque l'âme parvenue à l'oraison d'union, elle reconnaît que le Seigneur n'accorde de pareille grâce et grandeur, dit-elle, qu'à condition que beaucoup d'autres en bénéficient. Dans les demeures, je vous en ai parlé au début, elle renchérit et elle dit, si nous considérons la multitude des âmes que Dieu ramène à lui au moyen d'une seule, nous pouvons beaucoup le louer des milliers de conversions que faisaient les martyrs. Et suit également toute une liste de saints, là, qu'on trouve dans les cinq demeures. Tout au long de sa longue vie de fondatrice, Sainte Thérèse d'Avila a eu l'occasion de vérifier souvent, j'ouvre les guillemets, qu'une seule personne, tout à fait parfaite, bouillante d'amour vrai pour Dieu, est plus utile que beaucoup de tièdes. Elle aime bien répéter ça. Voici encore un beau texte sur l'efficacité spirituelle du vrai serviteur de Dieu. Je vous le lis, c'est un peu long, mais ça vaut la peine. Dans les temps de trouble, quand l'ennemi a semé la zizanie et semble entraîner à sa suite les hommes à demi aveuglés, Dieu suscite alors un homme qui ouvre leurs yeux et dit, prenez garde, l'ennemi obscurcit votre chemin avec du brouillard. Ô grandeur de Dieu, un homme seul, ou dix, qui disent la vérité, sont parfois plus puissants qu'une foule d'autres réunis. Peu à peu, il leur montre à nouveau le chemin, et Dieu lui donne du courage. Il en suffit d'un qui ait du courage, pour qu'un second se présente aussitôt, et que le Seigneur regagne ce qu'il avait perdu. Alors, sur la sainteté et la mission, il faut souligner l'actualité du message de Sainte Thérèse. Oui, dans le paragraphe 90 de son encyclique « La mission du Christ rédempteur » adressée à tous les chrétiens, le pape Jean-Paul II, qui a été élu demain il y a 20 ans, j'ai eu la chance d'être là par hasard, c'est un des plus beaux jours de ma vie, je tiens à le dire, c'est extraordinaire que d'être là, à un moment où, pareil, une grande grâce. Alors, le pape Jean-Paul II, donc, dans la mission du Christ rédempteur, écrit « L'appel à la mission découle par nature de l'appel à la sainteté. » Il ajoute « Tout missionnaire n'est authentiquement missionnaire que s'il s'engage sur la voie de la sainteté. La sainteté est un fondement essentiel et une condition absolument irremplaçable pour l'accomplissement de la mission de salut de l'Église. » Il termine en disant la vocation, cette citation, la vocation universelle à la sainteté est étroitement liée à la vocation universelle à la mission. Tout fidèle est appelé à la sainteté et à la mission. Dit donc Jean-Paul II, je vous rappelle, c'est dans son encyclique, la mission du Christ rédempteur. Et pour Sainte Thérèse d'Avila, bien, l'oraison, eh bien, un chemin de sainteté qui ouvre toute forme d'apostolat ou de témoignage. Alors, on va voir maintenant, de façon plus précise, comment la croissance dans la vie de prière entraîne un développement de l'esprit apostolique. Le but apostolique de la vie d'oraison, dont je vous ai souvent parlé, la prière, l'oraison, j'en ai fait des émissions là-dessus, hein, clairement affirmé par Sainte Thérèse d'Avila dans un passage célèbre. C'est pas long, deux lignes. Tel est le but de l'oraison, mes filles. Voilà à quoi sert ce mariage spirituel. Donner toujours naissance à des œuvres, des œuvres. C'est dans la septième demeure. Ainsi, le dynamisme même de la vie mystique ou de la vie d'oraison conduit-il toujours aux œuvres? Ce mot étant entendu ici dans un sens très large, la charité, qui en est le cœur, suscite sans cesse un don actif à l'égard de Dieu comme à l'égard du prochain. Et parce qu'elle s'adresse d'abord à des carmélites sans occupation extérieure, elles sont cloîtrées, Thérèse va insister d'abord sur la recherche de l'union d'amour au Seigneur, source de toute fécondité. Pourquoi? Parce que c'est essentiellement par le rayonnement caché de leur charité que les sœurs vont réaliser leur vocation dans l'Église. Tout ça explique pourquoi, dès les débuts de la vie spirituelle, la carmélite se montre toujours très réservée à l'égard d'un zèle qui ne serait pas suffisamment ressourcé en Dieu. Ce zèle-là appauvrirait l'âme. Il ne serait pas vraiment profitable aux autres. Par contre, la sainte montre bien comment, dans les degrés plus élevés de l'union à Dieu, l'âme pourra donner toutes ses mesures apostoliques. C'est en pensant à sainte Thérèse d'Avila que le père Marie-Eugène précise que l'apôtre, ouvrez les guillemets, ne sera instrument parfait que lorsqu'il sera lui-même agi et animé uniquement par l'amour. Vous pouvez lire ça dans « Je veux voir Dieu ». Je vous recommande ce livre qui coûte un petit peu cher, mais ça vaut la peine. Page 1050. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'il faudrait attendre d'être parvenu aux demeures supérieures pour commencer à s'engager activement dans des œuvres, car alors qui agirait? Mais qu'il est nécessaire d'accomplir sa mission, quelle qu'elle soit, en ayant le souci d'acquérir le degré d'amour correspondant. Alors c'est ainsi que se noue le lien entre la raison, la sainteté et la mission, l'engagement, quoi. Par le cheminement de demeure en demeure, dans son livre, qu'elle propose, sainte Thérèse d'Avila permet de découvrir comment se produit cette liaison. Il y a certains passages qui font apparaître que dans les débuts de la vie spirituelle, bien, le souci de rester simplement fidèle à Dieu au milieu de bien des luttes mobilise l'essentiel des forces de l'âme, l'emporte sur celui du rayonnement extérieur. On veut se confiner en soi. Dans la vie, qu'elle a écrit sa vie, là, sainte Thérèse d'Avila va jusqu'à parler de tentation pour désigner un désir d'apostolat intempestif de la part de chrétiens au faible amour de Dieu et aux vertus trop incertaines. Mais quand même, dans les demeures, elle montre que le germe de zèle apostolique, comme on l'a vu hier avec Amélie Fristel, qui est déjà là, là, pourra se développer grâce à la fidélité à la vie de raison. C'est en effet par elle que l'âme apprend à connaître celui qui l'appelle à agir à son service. Quand elle décrit les troisièmes demeures, sainte Thérèse s'efforce de faire comprendre à ceux qui sont parvenus à cette étape fort louable de la vie spirituelle qu'il leur faut pourtant dépasser leurs œuvres mesquines, afin de se remettre complètement au Seigneur. Et le don de soi, qui est la clé de l'enseignement de sainte Thérèse, et le sésame, vous savez ça, qui permet à la vie spirituelle de passer au stade mystique dans les quatrièmes demeures, moyennant une nouvelle effusion gratuite de la grâce divine. C'est comme ça que la raison s'épanouit en contemplation, en oraison de quiétude, comme on dit, et que l'activité elle-même commence à devenir mystique, parce qu'elle est davantage influencée par l'Esprit Saint. Et en effet, dans la raison de quiétude, c'est une petite étincelle du véritable amour de Dieu que le Seigneur commence à allumer dans l'âme, enseigne Thérèse. Et cette étincelle d'amour produit dans l'âme une sorte de dilatation qui la fait entrer plus profondément dans la vérité de ce projet libérateur de Dieu. L'apôtre est ainsi amené progressivement à faire prévaloir le point de vue de la foi sur les considérations et les projets simplement humains. L'Esprit Saint éclaire l'intelligence et la volonté. Et au cinquième demeure, bien, se produit une véritable métamorphose spirituelle. Alors là, le ver à soi devient papillon. C'est l'union de volonté. C'est la raison d'union, comme on dit. Et cette image permet à sainte Thérèse d'exprimer le bouleversement radical de tout le paysage intérieur de l'âme. Et dorénavant, tous les désirs de l'âme sont orientés vers les choses de Dieu. Je répète, tous les désirs de l'âme sont orientés vers les choses de Dieu. Et c'est pourquoi elle voudrait s'anéantir dans la louange du Seigneur, subir de grandes épreuves pour lui, se livrer à la solitude et à la pénitence, et surtout, surtout que tout le monde connaisse Dieu. Ah! La volonté résonne désormais dans son cœur d'une façon radicalement nouvelle, du fait de la profondeur de la transformation. Alors, vaincue par la charité divine, l'âme, dit-elle, demande à Dieu de faire d'elle ce qu'il veut. Elle ne sait et ne veut rien d'autre, dit sainte Thérèse. C'est un éclatement de l'esprit apostolique qui l'a saisi jusqu'au fond des entrailles, écrit-elle. Il est important de préciser que cette ardeur nouvelle ne provient pas d'une simple méditation sur le sort dramatique de l'humanité pécheresse, comme sont faits de temps en temps, moi le premier, mais qu'il est le fruit de l'union mystique avec le Seigneur. Comme dans les demeures précédentes, et plus encore, mais la grâce, l'oraison d'union est donc éminemment apostolique. Alors nous sommes rendus au sixième demeure avec Thérèse d'Avila. Et avant que d'être le lieu là, des fiançailles spirituelles, comme elle appelle ça, mais les sixièmes demeures sont le moment d'une purification intense et douloureuse. Saint Jean de la Croix appelle ça la nuit de l'esprit. Mais comme l'amour n'est jamais oisif, comme le dit si bien sainte Thérèse, l'amour est toujours en mouvement. Mais l'âme accepte de traverser le feu des épreuves intérieures et extérieures afin de servir davantage. C'est pas possible d'entrer ici dans le détail de ces purifications, on n'a pas le temps, qui touche et la vie intérieure et la vie apostolique. Disons simplement que l'âme sortira de ce creuset d'épreuves plus affinée, plus clarifiée, pour que le Seigneur se reflète en elle. Et les fiançailles spirituelles, parce qu'elles sont l'occasion d'un immense renouveau d'amour, sont nécessairement l'origine d'un zèle, mais d'un zèle extraordinaire qui pousse l'âme à agir de mille manières. Est devenu un merveilleux relais de Dieu, s'appuyant tout sur sa grâce, eh bien l'apôtre peut se donner sans réserve à l'action, parce qu'il est véritablement possédé par l'Esprit. Il peut livrer un combat victorieux contre le mal, l'affrontement avec celui-ci provoquant ici de plus vifs désirs de collaborer à l'œuvre du salut. Alors on arrive avec sainte Thérèse au septième demeure, où la grâce du mariage spirituel achève l'œuvre d'identification au Christ, parce que l'âme lui est complètement unie, elle épouse parfaitement son désir de libération, de rédemption. La nécessité des œuvres l'investit tout entière. La contemplation et l'action, représentées par les figures évangéliques là, de Marie et de Marthe, hein, habituellement, sont harmonisées dans la charité. Sainte Thérèse, dans les pensées sur l'amour de Dieu, dit bien la page 602, elle ne cesse d'agir ensemble, à peu de choses près, car dans la vie active, et qui semble extérieure, l'intérieur agit. Et quand les œuvres actives poussent sur cette racine, elles donnent des fleurs admirables et suprêmement adorantes. Et l'un des intérêts majeurs de l'enseignement de sainte Thérèse d'Avila est de montrer, justement, que non seulement l'oraison débouche sur l'action, mais encore que l'action vécue dans une union intense au Christ nourrit la vie mystique et la contemplation elle-même. On peut examiner rapidement, toujours en compagnie de ce grand spécialiste qui est le Père Villelem, cette question, l'action, nourriture de la vie mystique. Sainte Thérèse d'Avila est bien persuadée que les travaux entrepris uniquement pour la gloire de Dieu dans un esprit d'obéissance à son égard et pour le service des autres, ça contribue au progrès de la vie mystique. Et en effet, Dieu se donne en toutes circonstances, pourvu que l'on demeure dans sa volonté, et telle est la règle d'or qui permet à la vie mystique de se développer dans l'action et par elle. Sainte Thérèse d'Avila raconte comment la rencontre avec certains apôtres entièrement donnés à leurs travaux absorbants et devenus pourtant très spirituels lui avait mieux fait comprendre comment le dévouement apostolique contribue au progrès de la vie mystique. Sacrifier tranquillité et recueillement pour le service de la charité fera que Dieu se donnera par gorgées plus rafraîchissantes et sanctifiantes que dans de longues heures consacrées uniquement à l'oraison. Sainte Thérèse d'Avila s'exclame à un moment, « Il ferait beau voir que Dieu nous commanda clairement d'agir pour son service et que nous nous y refusions sous prétexte que nous préférons passer notre temps à le regarder. » Dans les degrés supérieurs de la vie spirituelle, sixième, septième demeure, on reste contemplatif en agissant. De façon semblable, on est agissant dans l'acte même de la contemplation. Et en se lançant dans l'action, le contemplatif ne perd pas Dieu, mais le trouve, au contraire, en toute chose. Le Père Marie-Eugène décrit la physionomie spirituelle de l'âme livrée à l'esprit. Voici le texte, c'est très beau. Pour rester avec Dieu, L'âme doit obéir à la motion de l'Esprit-Saint qui l'amène ici ou là pour réaliser son œuvre. Et partout où elle est ainsi conduite, elle trouve Dieu qu'elle porte en elle. Et elle en jouit dans la douce clarté de son expérience intime. Elle n'est jamais plus active et plus puissante que lorsque Dieu la maintient dans la solitude de la contemplation. Elle n'est jamais plus unie à Dieu et plus contemplative que lorsqu'elle est engagée dans les travaux pour faire la volonté de Dieu sous l'emprise de l'Esprit-Saint. On trouve ça à la page 1071-1072 de « Je veux voir Dieu ». Et en évoquant ces sommets, bien Sainte Thérèse, elle n'hésite pas à affirmer une certaine soumission réciproque de la volonté de Dieu et de celle de l'âme. De fait, c'est assez surprenant, l'amitié avec le Seigneur est alors si vraie, si profonde. Elle dit que non seulement le Seigneur lui rend l'usage de sa volonté à l'âme, mais il lui remet la sienne. Il se plaît parfois à laisser l'âme commander à son tour, à faire ce qu'elle lui demande, comme elle fait ce qu'il lui demande. Et l'apostolat apparaît alors vraiment pour ce qu'il est, c'est-à-dire une réelle collaboration avec Dieu. Et comme le constate avec émerveillement le père Marie-Eugène, il le dit bien à la page 1075, « L'amour se fait humble même lorsqu'il est tout puissant pour exalter ceux qu'il aime. » En somme, l'ensemble de l'enseignement de Sainte Thérèse d'Avila est basé sur la primauté de l'initiative divine dans la vie spirituelle. Et plus la vie de raison s'approfondit, bien plus cette primauté s'affirme à l'intérieur même de l'apostolat. Et le cheminement de demeure en demeure, là, permet de suivre la progression dans la docilité à l'Esprit-Saint, que ce soit dans la raison ou l'action. Et au septième demeure, bien, l'apôtre contemplatif est plus que jamais préoccupé par tout ce qui touche à l'honneur de Dieu, mettant ainsi sa gloire dans l'aide qu'il peut apporter aux crucifiés. Et la volonté de Dieu est sa paix, la plénitude de tous ses instants, puisqu'il ne désire qu'une seule chose, le servir. Comme je vous ai dit, je me suis inspiré d'un texte du père François-Régis Villelem, de l'Institut Notre-Dame de Vie, dans le sud de la France, près de Venasque, et qui a publié « Agir dans l'esprit » à la suite de Thérèse d'Avila, dans une série de volumes « Paroles et lumières » paru chez Le Sarment Fayard l'an dernier, en 1997. C'est 344 pages. Je termine par une belle prière de Sainte Edith Stein, carmélite. Qui es-tu, lumière, toi qui me remplis et éclaire l'obscurité de mon cœur? Tu me conduis par la main à l'égal d'une mère, si bien que je ne saurais, si tu me lâchais, faire un seul pas. Tu es l'espace qui encercle mon être, qui l'enferme et l'abrite. Abandonné de toi, il plongerait dans le gouffre du néant, d'où tu le tireras pour le faire exister. Toi, plus près de moi, que je ne le suis moi-même, et plus intime que le tréfonds de moi, et pourtant insaisissable et ineffable, toi qui fais éclater tous les noms, Esprit Saint, Amour éternel. »